Je pense que sur l'écologie, en fait, il faut faire le choix de l'optimisme parce qu'on n'a pas le choix. On peut se dire, bon, bah, je vais rester dans mon lit et regarder des séries et manger des chips en attendant qu'on meure tous. Moi, je pense qu'on y peut tous quelque chose et qu'aujourd'hui, si on fait rien, c'est sûr que la solution sera pire que si on fait quelque chose.
Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castalie, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je reçois Flora Gebali, fondatrice de Coalition, une agence d'innovation sociale. À 27 ans, elle a déjà un CV long comme le bras et vient tout juste de rejoindre le classement des entrepreneurs de moins de 30 ans qui sélectionne, je cite, « les étoiles montantes de l'écosystème entrepreneurial français ». Rien que ça. Pour couronner le tout, celle qui se qualifie d'entrepreneur militante vient de publier son premier livre « Ma génération va changer le monde » aux éditions de l'Aube. Bonjour Flora.
Bonjour.
Merci de venir chez Castalie.
Bah merci à vous de m'accueillir.
Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi, ce que tu as fait avant de lancer Coalition, peut-être tes études, ta famille ?
Alors moi j'ai 27 ans, je me qualifie comme une engagée, je crois que j'ai toujours été engagée comme le dit le titre de mon livre « Ma génération va changer le monde ». Et à l'époque où j'ai commencé à me demander ce que je voulais faire de cette fibre que j'avais en moi d'engagée, on m'a dit c'est simple, l'État il s'occupe de l'intérêt général et les entreprises elles s'occupent des intérêts particuliers, elles s'occupent de faire du profit. Donc moi je me suis dit oula mais moi c'est pas ce qui m'intéresse, je veux aller voir ce qui se passe côté intérêt général. Alors j'ai très vite voulu faire de la politique, donc je me suis engagée à 15 ans, quand en fait on a le droit d'adhérer, la loi dit qu'on a le droit d'adhérer à un parti politique à partir de 15 ans. Donc quand j'ai eu mon anniversaire de 15 ans, je suis allée chercher ma carte dans un parti politique, j'étais très fière de moi, sauf que là ça a vite été la déconvenue. Parce que j'ai jamais trouvé ma place dans les partis. On m'a expliqué qu'il fallait
Tu peux nous dire quel parti c'est ?
Oui, c'était au Parti Socialiste, bien sûr. C'était à la Fédération de Paris 3e, puisque je suis parisienne. Et on m'a très vite expliqué que si je militais pendant 20 ans, que je distribuais des tracts tous les matins à 8h du matin au métro, peut-être qu'un jour je deviendrais conseillère municipale et que c'était super. Ça m'intéressait pas du tout, en fait. Moi, j'avais 15, 16, 17, 18 ans. Et je voulais changer le monde. Je voulais parler des grands idéaux, de ce que j'avais appris de l'histoire de la gauche en France. Et du coup, ça a été une sacrée déconvenue. J'ai fait plutôt l'expérience de l'inaction. Donc on se rend vite compte que quand on a envie d'être du côté des solutions, du côté de la transformation, on se rend vite compte que c'est pas trop l'endroit où il faut être. Et en fait, donc j'ai continué cette expérience politique jusqu'à me retrouver à l'Élysée, au cabinet de François Hollande, qui était alors président de la
Avant
République.
Avant ça, peut-être juste tes études, qu'est-ce que tu as fait pendant que tu militais ?
Alors moi, j'ai fait un master de droit public, et après j'ai fait le CELSA, qui est une école de communication, et après j'ai fait la London School of Economics, qui est à Londres, et qui est une école d'économie et de sciences politiques.
Donc tu as fait des belles études.
J'ai vite compris que les études, c'était pas forcément ce qui permettait. Enfin, je me suis toujours plus positionnée dans l'action. J'ai été vite. J'étais militante, j'ai créé plusieurs associations. J'ai vite eu des boulots en même temps que mes études. Donc, j'ai vite compris que les études, c'était une super formation intellectuelle, mais que ça apprend pas vraiment un métier. Enfin, on a tous fait des études qui sont pas forcément liées à.
Pourquoi est-ce que tu es partie faire la LSI à Londres ?
En fait, j'étais très contente. J'ai toujours rêvé d'aller au CELSA. Et quand je suis arrivée au CELSA, je me suis rendu compte que c'était pas non plus. L'utopie intellectuelle, l'extase complète, même si je trouve que c'est une super école. Et je salue ici tous les gens qui ont fait le CELSA parce qu'on est très communautaire dans cette école. Mais du coup, je me suis dit, il faut aller au-delà, il faut aller chercher à l'international. Et je suis tombée sur la LSI. J'ai envoyé un dossier. 6 mois après, j'ai reçu que j'étais prise. J'étais à l'Élysée à ce moment-là. Donc, j'avais pas du tout le temps. Donc, j'ai décalé plusieurs années mon admission. Et à un moment, on a changé de président. Donc, j'avais plus de travail. Et donc, je me suis dit, c'est le moment. Allons-y. J'avais un prêt à la banque qui m'attendait.
Comment est-ce qu'on devient RP, finalement, d'un président de la République ?
Je pense pas qu'il y ait de chemin exemplaire sur cette voie. Je pense que c'est vraiment des histoires assez individuelles. Moi, quand j'étais militante pendant la campagne de François Hollande, et j'avais rencontré une personne qui allait être une personne du service com. Et puis après,
J'ai aussi fondé une association où on a eu besoin de l'Élysée pour plusieurs actions associatives et où on a eu un très bon contact avec l'Élysée. Donc j'avais en fait un peu par hasard des contacts dans l'équipe com de l'Élysée. Et puis évidemment, j'ai fait un master en communication politique, donc je pense que ça aide.
Et c'est quoi le quotidien du coup
Ah bah le quotidien c'est très intense, on dort pas beaucoup, on n'a pas trop de vie sociale, on est un peu déconnecté aussi de la perception des gens parce qu'on est un peu au cœur du truc, donc c'est un peu bizarre. Parfois c'est pas très agréable. Enfin moi j'avais du mal à sortir, à aller boire un verre avec mes amis qui me disaient mais vous faites rien pour les migrants et alors là je culpabilisais alors que c'était pas trop de ma faute et à la fois on faisait quand même des choses et enfin en fait la distorsion vraiment j'ai essayé de mettre mon énergie à essayer de combler, enfin quand on fait de la communication c'est ça, essayer de créer une réalité entre l'action présidentielle et ce que les Français perçoivent et en fait la distorsion elle est énorme donc c'est pas évident mais sinon le quotidien oui il est très, enfin on se déplace en avion, en voiture, en truc, il est assez grisant hein, c'est assez excitant comme quotidien.
Avant que tu n'en dises plus sur ton agence, ce qui frappe le plus, c'est que tu as démarré par la politique. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la politique à l'entreprise ?
Oh là là, alors ça c'est une question dure. Moi de mon côté, c'est très simple. C'est que j'ai toujours cherché à avoir de l'impact, à trouver des solutions, à être dans l'action. Et en fait, en politique, c'est pas trop ce que j'ai croisé. Et je me suis retrouvée voilà, à l'Élysée et c'était une expérience extrêmement stimulante, extrêmement riche, mais finalement assez macro. Et je me suis rendu compte que finalement, bah, moi, ce qui était important pour moi, c'était de voir, d'avoir un impact visible qui est sûrement beaucoup plus petit, mais qui au moins me permet de le mesurer, de me rendre compte de quel impact j'ai pu avoir. Voilà, et après, c'est par hasard que je me suis retrouvée dans une fondation qui s'appelle La France s'engage. Et là, j'ai rencontré la France des solutions. Je dis souvent, d'ailleurs, j'ai quitté la France des problèmes pour rencontrer la France des solutions. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ici ma place, en fait. C'est plutôt dans construire quelque chose, agir. Et j'ai surtout découvert que, bah, on se plaint toujours que l'État n'investit pas assez d'argent dans des choses et d'autres, etc. Et je me suis rendu compte que bah, les entreprises, elles avaient plein d'argent aussi, que parfois, elles étaient plus agiles, elles arrivaient plus à faire des choses. Et enfin, elles ont pris conscience de leur rôle d'acteur, du bien commun. Quand on voit que LVMH a dégainé du gel hydroalcoolique avant l'État. Et on voit qu'elles ont pris la mesure, un, de leur responsabilité, mais deux, que surtout, elles ont de la capacité d'agir. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qui a le pouvoir d'agir sur quoi et où est-ce qu'on va chercher ce pouvoir pour changer les choses.
Ouais, donc ça, c'est la fondation de François Hollande.
Voilà, c'est la fondation qui est en fait qui est présidée par François Hollande.
D'accord.
Mais qui a un conseil d'administration hyper intéressant parce qu'il est hybride entre le privé et le public.
D'accord.
Donc il y a des entreprises comme Total, BNP Paribas, Andros et l'État.
De quoi tu t'occupais et quel était le domaine?
Alors en fait c'est une fondation que j'ai suivie déjà d'une part à l'époque où je travaillais à l'Élysée puisque à l'époque il s'agissait d'un fonds de dotation. Le président Hollande, à ce moment-là, dit « Bon, c'est bien d'encourager l'entrepreneuriat social et solidaire, mais il faut l'encourager avec des fonds. Parce qu'en fait, on peut encourager autant qu'on veut avec la loi les entrepreneurs, mais s'ils n'ont pas les moyens financiers d'entreprendre, ça va être compliqué. » Et donc, à ce moment-là, il crée La France s'engage, qui est en fait un fonds de dotation publique-privée, déjà à l'époque, qui finance certaines petites pépites de l'économie sociale et solidaire, notamment des simplons, des entreprises qui sont devenues aujourd'hui...
Salut Fred.
Salut Fred, qui sont devenues très grandes. Et en fait, en 2017, le président dit bah, ça risque de ne pas être une priorité pour le président qui arrive. Et donc, il transforme le fonds en fondation. Il lève des fonds assez rapidement parce que quand on est président de la République, ça aide. Et moi, je me suis occupée j'ai dirigé le pôle communication et développement. Et ce qui était très intéressant, c'est que je m'occupais à la fois d'encadrer l'accompagnement des entrepreneurs sociaux qu'on finançait, puisque donc, c'est une fondation qui finance l'innovation sociale. L'innovation sociale, ça ne veut pas forcément dire une technologie très poussée, digitale, une appli ou quoi. Mais ça veut dire d'apporter une solution nouvelle à un problème de société, en fait. Mais c'est d'apporter, voilà, comme vous, Castalli, vous apportez une solution. Finalement, ce n'est pas une révolution technologique, mais c'est quand même bien vu d'avoir facilité tout ce cheminement de l'eau dans une entreprise, dans un restaurant.
Une révolution d'usage.
Voilà, c'est une révolution d'usage. Et voilà, et donc j'étais à mi-chemin entre l'accompagnement de ces projets et dans l'accompagnement des financeurs et aussi.
Tu as participé au levée de fonds ?
Oui, je participais, enfin j'encadrais les opérations de levée de fonds. Et surtout, il fallait aussi satisfaire les partenaires, c'était assez intéressant. Les entreprises, voilà, les grands groupes que j'ai cités qui finançaient les projets, bah, ils disaient « Attendez, nous on met de l'argent au pot, qu'est-ce qu'on a en contrepartie ?» Et en fait, je crois qu'on a commencé vraiment à implémenter, je ne sais pas si ce n'est pas un peu un anglicisme de dire ce mot, en tout cas à incuber les associations et les entreprises sociales dans ces grands groupes qui, en fait, sont les premiers bénéficiaires. En fait, c'est intéressant parce qu'un grand groupe, c'est une communauté de personnes, de 100 000 personnes. C'est un peu comme une collectivité, finalement. Et donc, voilà, c'est de dire, bah, utiliser en fait, ces ressources-là, utiliser ces idées, utiliser ces innovations pour solutionner les problèmes énormes que vous avez dans vos entreprises.
Donc ça, c'est la France s'engage. Mm-hmm. À quel moment est-ce que tu décides de monter Coalition ?
Alors après 2 ans de loyaux services à la France s'engage, j'avais beaucoup justement d'entreprises privées qui me disaient « Ah, mais nous, on aimerait plus un truc sur mesure, etc. » Et en fait, à ce moment-là, je me dis « Ouh là là, il y a tellement de choses à faire dans les boîtes. » En fait, ma culture militante d'aller essayer de faire changer les choses au niveau local, national, régional, enfin peu importe le niveau, en fait, il faut le faire au niveau d'une entreprise parce que si une entreprise, c'est 100 000 personnes, c'est comme une ville ou une collectivité, enfin un département, enfin voilà. Et donc je me dis, il y a plein de choses à faire pour aller faire changer les entreprises de l'intérieur. Et finalement, peut-être que c'est ça, pendant que la politique, c'est compliqué, c'est bloqué, c'est pessimiste, il y a un récit politico-médiatique.
C'est violent, la politique, non ?
C'est très violent. Quand on est une femme, je ne suis pas rentrée dans ce détail-là, mais c'est compliqué aussi, encore en 2021. Ça l'est beaucoup moins qu'il y a 10 ans, beaucoup moins qu'il y a 20 ans, beaucoup moins qu'il y a 30 ans, où c'était quasiment impossible. Mais ça reste assez compliqué. Ça reste une culture assez masculine dans le sens dans le mauvais sens du terme. Et donc voilà, c'est compliqué.
T'as déjà été confrontée à du sexisme et du sexisme ordinaire ?
Oui, bien sûr. J'anime un conseil d'administration avec des anciens ministres, des PDG, un président, etc. Et je me mets devant la porte pour accueillir les participants. Et là, je tends la main et on me met 2 manteaux sur les mains en me prenant pour l'hôtesse d'accueil sans que j'ai le temps de dire bonjour, au revoir, merci, rien. Et là, on serre la main à mon stagiaire qui était en face, qui avait 22 ans, enfin, je n'ai pas compris. Donc oui, il y en a plein des choses comme ça.
Donc là, tu as démarré il y a combien de temps ?
Donc j'ai démarré il y a 1 an et demi. Donc j'ai créé Coalition parce que justement, avec cette idée de dire que c'est quand les acteurs se rassemblent que la société se transforme. Finalement, on le voit bien quand une entreprise sociale bosse avec un grand groupe, qui bosse lui-même avec l'État et qu'en fait chacun retrouve son bon rôle. Alors là, les choses fonctionnent. En fait, ce qu'on dit souvent chez Coalition, c'est qu'il y a comme une chaîne de l'impact qui permet à la fin de la chaîne d'avoir une solution durable qui fonctionne. Et en fait, pour que cette chaîne de l'impact permette d'arriver jusqu'à la solution, il faut que chacun soit à sa bonne place, joue son bon rôle. Et le problème aujourd'hui, c'est que personne joue son bon rôle. Les grands groupes, ils créent des programmes pour avancer sur des sujets de société, des sujets d'écologie. Mais en fait, ils vont pas voir ce qui se passe déjà dans le tissu associatif, dans le tissu entrepreneurial. Et donc, ils recréent des choses ad hoc du début, alors que plein de choses géniales se font. Pareil, l'État, il copie des associations parce qu'il ne sait pas trop comment faire. Au lieu de permettre à ces associations, par un financement, en leur donnant des lieux, des terrains d'expérimentation, il leur permettrait de se développer. Donc nous, avec Coalition, voilà, notre mission, c'est un peu... notre mission, c'est de transformer la société par l'innovation sociale et écologique. Mais concrètement, comment on fait, c'est qu'on essaye un peu de mettre chacun dans son bon rôle pour permettre à tous d'avancer sur des sujets de société.
Tout à l'heure, t'as dit une phrase qui m'a marqué. Tu disais que finalement tu avais quitté le monde de la politique et le monde des problèmes pour le monde des solutions. Est-ce que c'est ça, Coalition ?
Ah oui, tout à fait. Nous, on est vraiment côté solution et côté action. Parce que ce qui manque un peu, c'est le passage à l'action. C'est de se dire, maintenant, comment on fait ? Toi, j'imagine que c'est ce que tu as fait avec Castalli. C'est très commun à l'entrepreneuriat social.
Je pense que c'est commun à l'entrepreneur. Ça veut dire que finalement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie d'être dans l'action. Et il y a un moment où... t'es confronté à une problématique et c'est comment est-ce que tu fais pour te donner les moyens de résoudre la problématique. Juste sur Coalition, c'est qui tes clients ? Vous êtes combien ? Quoi tes ambitions ?
Alors chez Coalition, on est une petite équipe. La chance qu'on a, c'est que comme on fait du conseil, on n'a pas trop besoin d'anticiper, par exemple, de lever de fonds, etc. Et on n'a pas vocation à devenir une grande équipe. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi, j'ai choisi ce modèle économique qui est de dire que si on peut tous se payer à la fin du mois, c'est super, mais on n'a pas besoin d'être toujours en hypercroissance. Enfin, moi, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse.
Mais si tu veux changer toutes les entreprises, est-ce que tu n'as pas besoin d'être en hypercroissance ?
En fait, nous, on peut accepter que 5 clients à la fois chez Coalition parce que nos ressources humaines ne permettent pas plus. Le choix que moi, je fais, peut-être qu'un jour, je changerai d'avis, c'est de dire à partir du moment où tout le monde travaille à des horaires raisonnables et que tout le monde peut se payer à la fin du mois, on n'a pas besoin... de devenir 20, 30, 40 parce que ça devient ingérable. Et, enfin, peut-être que c'est gérable pour d'autres, mais moi, je suis pas sûre de savoir de diriger 40 personnes. Je suis pas sûre que ce soit mon point fort. Par contre, ce que j'adore, c'est pouvoir travailler à des horaires qui me conviennent, pouvoir écrire des livres, pouvoir avoir plein de projets créatifs ou autre à côté, et aussi maintenir un équilibre vie pro-perso dans ma boîte qui tient, quoi. C'est que c'est très très rare qu'on dépasse les horaires, et à un moment, bah, quand on veut l'hypercroissance, il faut faire des concessions. Mais moi, j'aime bien dire que j'ai pas une start-up, j'ai une TPE, quoi. C'est ma TPE.
Et c'est bien d'avoir une TPE.
Bah, c'est trop bien, ouais. Franchement, si tout le monde avait des TPE, je pense qu'il y aurait moins de pollution et il y aurait moins d'impact négatif.
On parle souvent d'éco-anxiété. Je ne sais pas si toi, tu es éco-anxieuse, mais est-ce que tu as des solutions à l'éco-anxiété ?
Bah, moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Moi, ma seule solution, j'ai toujours ce débat avec mes proches, au travail, avec tout le monde, c'est de se dire, voilà, on peut aussi vivre dans l'éco-anxiété. Et c'est horrible, en vrai, parce que c'est vrai que si on regarde les rapports du GIEC de près, ce qui nous attend n'est pas très glorieux si on ne change pas très vite nos pratiques. Et même un peu dramatique. Mais moi, ma seule solution, c'est de se dire, bah, au moins, j'aurais fait quelque chose, quoi. Mais bon.
Donc, ton livre s'appelle « Ma génération va changer le monde ». Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, ta génération ?
Alors, moi, j'ai 27 ans. Je suis née en 1994. Donc, je ne suis pas très jeune, en vrai. Enfin, je ne suis pas dans la génération X.
Parce que pour moi, tu es beaucoup plus jeune que moi. Du coup,
oui, on est tous le jeune et le vieux de quelqu'un d'autre. Mais par contre, je ne suis pas ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés à partir en fait, de 95-96 et qui ont grandi avec un smartphone, un ordi, etc. Moi, je n'avais pas prévu de donner ce titre à mon livre. Mais en fait, quand j'ai rendu mes épreuves, je me suis rendu compte, enfin mon éditeur m'a permis de m'en rendre compte, les éditions de l'Aube, je vous salue, que j'avais écrit ça avec vraiment un prisme générationnel. Et j'étais obligée de l'admettre, j'ai dit ah oui, en fait je ne m'étais pas du tout rendu compte. Et en fait apparemment, j'ai écrit quelque chose qui est très commun à ma génération. Et donc loin de moi l'idée d'être une porte-parole, j'ai aucune idée de qui est qui dans cette génération, parce que je ne connais pas. Par contre, c'est vrai que ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des déterminants communs. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une génération qui cherche le sens quand même. Quand on habite à Paris, en tout cas, on ne peut pas devenir propriétaire. On ne peut pas vraiment s'enrichir. Donc, en fait, l'idée de construire pour, à 60 ans, profiter de sa retraite et laisser des choses à ses enfants, je crois déjà que c'est une idée qui nous paraît assez loin de ce qui est possible pour nous. Donc, c'est plus une génération qui va chercher, enfin, si je peux me permettre d'en parler comme un tout, qui va chercher son bonheur au quotidien et qui, du coup, va chercher un rééquilibrage de vie qui n'est pas permis par le cycle infernal du travail, à savoir consommer, produire, mettre au boulot dodo. Enfin, on l'appelle comme on veut, mais il veut dire la même chose.
Et en même temps, j'ai l'impression que cette génération, elle consomme assez frénétiquement. Enfin, on voit le nombre de levées de fonds pour des sociétés qui font des livraisons. Alors, on avait la livraison en moins de 24 heures, puis la livraison en moins de 12 heures, puis la livraison en moins de 2 heures, et maintenant en 15 minutes.
Terrifiant.
Mais c'est des oppositions, en fait.
Alors, c'est une génération qui est pleine de paradoxes, évidemment. Mais comme l'a très bien dit Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, remplir, accomplir, puis trahir sa mission. C'est-à-dire que les 68 arts, ils ont eu plein de paradoxes aussi. Il n'empêche qu'ils ont laissé une vague de liberté, de libération, notamment de la femme, dans la société qui a changé durablement notre société. Je pense que oui, notre génération est pleine de paradoxes. Oui, ça ne veut pas dire que toute la génération est dans la même vision et le même état d'esprit. Il n'empêche qu'il y a ce retour à l'authenticité, ce retour à l'honnêteté, à la vraie vie. Par exemple, il y a plein de néo-ruraux. C'est des gens qui décident d'aller s'installer à la campagne alors qu'ils viennent des villes. Et je pense...
Tu en as dans ton entourage, dans les Parisiens, tu disais que tu étais parisienne. Est-ce que autour de toi, tu as des gens qui partent en province ?
Ah oui, j'en connais plein. Et moi-même, je suis la moitié de la semaine à la campagne. C'est évidemment que le Covid est un catalyseur de ça, aussi un accélérateur. C'est de se dire, en fait, quand on s'est fait confiner dans nos 22 mètres carrés au premier étage sombre pendant des mois, en fait...
Tu l'as passé où, ton premier confinement ?
Alors moi, je l'ai passé à Paris, dans mon appart.
Ouais.
J'ai eu de la chance, c'est que j'ai monté... Enfin, c'est de la chance, je sais pas, mais j'ai monté un mouvement de solidarité qui coordonnait des chefs et des fournisseurs pour apporter de la nourriture, de la bonne bouffe, on appelait ça, aux soignants, parce que les pauvres, ils mangeaient vraiment des trucs
C'était avec quelle entreprise ?
On a monté un collectif qui s'appelait La Résistance des Chefs.
Ouais.
Et moi, je m'occupais de faire toute la chaîne logistique. On a eu plein de chefs qui participaient à l'aventure, plein de fournisseurs qui ont participé. En fait, l'idée, c'était de faire rentrer zéro argent dans le collectif. C'était vraiment que du bénévolat de tout le monde pendant le confinement. Et donc, moi, j'ai eu de la chance, c'est que comme je coordonnais les livraisons, enfin, je coordonnais toute la chaîne logistique, en fait. Et c'est très dur de faire de la logistique, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Et donc, souvent, je devais moi-même aller livrer des repas aux soignants. Donc, j'avoue, j'étais assez souvent en vadrouille avec mon attestation à aller livrer les hôpitaux. Ce qui était génial, parce que ça m'a permis d'échanger avec des aides-soignants, des médecins, enfin, tout type de personnel de santé en réa, qui me racontaient un peu la réalité de l'horreur qu'on était en train de vivre. Et donc, voilà. Mais sinon, j'étais à Paris, enfermée, comme tout le monde.
Tu me disais là que tes bureaux, vous avez intégré... Le Raise Lab, qu'on connaît bien.
Ouais, super. Alors, le Raise Lab, c'est l'incubateur du fonds d'investissement Raise, le même nom, qui est situé derrière République, rue de la Fontaine au Roi, et qui permet en fait de connecter des corporates qui veulent innover. Donc, typiquement, ce que nous, on recherche, puisque les corporates qui veulent innover, en général, l'innovation aujourd'hui, elle se place souvent côté social ou écologique, et des entreprises innovantes, donc comme la nôtre, donc ravie d'être considérée par Raise comme une entreprise innovante. Et ouais, du coup, ça nous permet de rencontrer pas mal de corporates et d'être dans un lieu... je trouve que quand on est une petite entreprise, c'est chouette de partager nos bureaux, parce que ça crée quand même une vie quotidienne agréable.
Quand on voit les forêts rasées, les océans pleins de plastique, la température grimper, est-ce que ça te donne envie de te révolter contre les générations précédentes ?
Pas vraiment, parce qu'en fait, on se rend compte, par exemple, j'ai vu ça récemment, ça m'a beaucoup interpellée, les ingénieurs agricoles des années 80, quand ils ont créé toutes ces technologies, en fait, qui ont fait la déforestation, qui ont fait fuir des villages entiers au Brésil, qui ont détruit la planète, en fait, ils poursuivaient une utopie qui était de se dire, on va réussir à nourrir toute la planète. À une époque où on parlait beaucoup des famines en Afrique, du problème de sous-alimentation dans le monde. Et donc, en fait, ils poursuivaient un objectif. C'était pas des monstres, ces gens-là. Ils se sont pas dit, oh tiens, on va détruire des villages au Brésil et on va vider l'Amazonie de ses arbres et on va faire de l'huile de palme. Ils se sont pas dit ça pour détruire la planète. Ils se sont dit ça en se disant, bon, bah super, c'est du progrès, en fait. Et donc, nous aussi, on est sûrement en train de créer du progrès qui sera dommageable plus tard. J'en sais rien, en fait. Je peux pas le savoir aujourd'hui. Je suis pas forcément une personne qui est optimiste de nature. Je suis pas non plus une grande pessimiste. Je dirais que je vois le verre à moitié, ni vide ni plein. Je suis à peu près neutre. Par contre, je pense que sur l'écologie, en fait, il faut faire le choix de l'optimisme parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, on peut faire une dépression si on commence à regarder tous les trucs des crises écologiques qui arrivent, tous les rapports du GIEC. Quand on se penche sur ces questions, je pense que c'est ton cas aussi. On peut aussi se dire, bon, je vais rester dans
mon lit. Voilà, on voit toujours la gourde à moitié pleine.
Voilà, vous voyez la gourde à moitié pleine. Voilà, vous avez fait le choix de l'optimisme aussi. Mais on peut se dire, bon, je vais rester dans mon lit et regarder des séries et manger des chips en attendant qu'on meure tous. Mais je pense pas que ce soit une solution. Ou alors, je vais vivre dans une ZAD, ou alors, de toute façon, ça sert à rien parce que mon impact individuel à moi ne sert à rien. Enfin, en fait, tous ces discours-là, je pense, alimentent la même chose qui n'est pas bonne, qui est de dire on n'y peut rien. Moi, je pense qu'on y peut tous quelque chose et qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, c'est sûr que la solution sera pire que si on fait quelque chose. Et à partir de là, je me dis, qu'est-ce que moi, je peux faire ? Donc, je pense que pour le coup, il y a un moment où il faut revenir un peu vers le militantisme parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une loi climat qui est en cours ou qui vient d'être votée et qui n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Donc je pense qu'il faut faire nombre, il faut faire force, et c'est un moment où il faut dire aussi ce qu'on pense. Et après, il faut évidemment mesurer son impact individuel, peut-être limiter les fois dans l'année où on a envie de prendre l'avion. Il faut faire un peu attention.
Est-ce que tu penses que les gens réalisent que le réchauffement climatique, il est là et qu'on va devoir radicalement changer nos modes de vie ? Là, tu parlais d'arrêter de prendre l'avion, en tout cas de limiter.
Je pense que
Alors que c'est tellement facile d'aller passer un week-end à Marrakech ou... ou en Italie, ou je sais pas où.
Je pense que c'est très variable d'une partie à l'autre de la population. Quand on voit parmi les paradoxes Nutella qui utilise beaucoup d'huile de palme, la consommation a explosé pendant le premier confinement parce que je pense que l'envie de manger du Nutella était plus forte confinée que l'envie de protéger la planète. Ce que je peux comprendre aussi, c'est pas un jugement. Par contre, je pense que la prise de conscience, elle progresse. Moi, j'entends beaucoup d'histoires autour de moi, par exemple récemment une maman qui me disait un jour, elle a passé une journée entière avec ses trois enfants dans la voiture. Le soir, elle a fait sortir les enfants de la voiture et elle a vu une pile de plastique avec tout ce qu'ils avaient grignoté, bu dans la journée. Et elle s'est dit, mais c'est plus possible. En fait, c'est horrible. Si moi, je suis capable de produire tout ça, il faut que j'arrête. Et elle a arrêté comme ça, par exemple, le plastique chez elle. Et je pense que la prise de conscience, elle s'accélère. Et je pense que la mission la plus importante, c'est de conduire cette prise de conscience. Aujourd'hui, les enfants, ils sont formés à l'école. Ils apprennent ça à l'école. D'ailleurs, souvent, on entend des gens qui disent « Ah, mon ado à la maison, il m'engueule parce que j'ai acheté encore un pack d'eau, etc. » Donc je pense que la prise de conscience, elle est en cours et que de toute façon, à horizon 5 ans, tout va changer.
Bon, 5 ans, c'est demain et c'est, je suis... Alors pour le coup, je suis plus pessimiste que toi sur la durée, mais je pense qu'on est effectivement sur une bascule et une accélération assez forte. Dans je sais plus quelle interview, tu disais que ta génération, elle a l'engagement dans son ADN. C'est crucial, l'engagement ?
Je pense. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'engagement dans mon ADN. Et oui, je pense qu'on est vraiment à un point de bascule. Tout le monde se rend compte que le Covid, c'est pas possible, en fait. Du coup, plein de choses derrière ne sont pas terribles. On le voit bien, c'est vraiment un catalyseur de tout ce qui va pas, de tout ce qui va, etc. Ça met beaucoup en lumière tout ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde va avoir envie et va s'engager dans les années à venir. Et d'ailleurs, les statistiques, elles le montrent déjà. Il y a un jeune sur deux qui est bénévole dans une association. Elle le montre déjà que les jeunes ont l'ADN au cœur. Et même tout le monde, je pense que tout le monde est plus heureux. D'ailleurs, je dis un truc dans mon livre, c'est que, en fait, à un moment, le livre, je voulais l'appeler « L'engagement, c'est rentable ». Parce que je dis, en fait, l'engagement, ça rend profondément heureux.
Ça te fait quoi d'avoir été sélectionné dans la liste des entrepreneurs Forbes de moins de 30 ans ?
Waouh, bah... C'est pas le genre de choses. En fait, par exemple, récemment, on a fait embaucher des personnes éloignées de l'emploi, 15 personnes éloignées de l'emploi dans un grand groupe. Ça m'a fait beaucoup plus plaisir que ça. Après, oui, je pense que c'est une bonne reconnaissance. J'ai du mal à me satisfaire de ce genre de choses, mais je pense que c'est un tort de ma part. Je sais pas, cette réponse n'a aucun sens. Non. Je sais, je suis trop contente, c'est une super nouvelle, voilà. Après, j'avoue que c'est pas le genre de choses qui me fait vibrer, ça me fait beaucoup plus vibrer d'autres choses.
Voilà. D'avoir de l'impact.
Ouais.
Pour finir sur une note plus légère, est-ce que tu lis beaucoup ?
Ouais, je lis pas mal. Enfin, je sais pas ce que c'est lire beaucoup, peut-être que je lis pas beaucoup, mais...
Qu'est-ce que t'as lu pendant le confinement, ou est-ce que t'as eu le temps de lire pendant le confinement, avec toutes tes activités logistiques de livraison ?
Non, j'ai pas mal lu pendant le confinement. J'ai lu un livre d'ailleurs qui a beaucoup inspiré mon livre, qui est le livre de Pascal Demurger. Pascal Demurger, c'est le président de la MAIF, assureur militant d'ailleurs, qui s'appelle « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». Et c'est hyper intéressant par rapport à moi, tout ce que je raconte. Et le fait de me rendre compte qu'un grand patron a fait le même constat que moi, ça m'a beaucoup rassurée dans l'endroit où j'allais, dans l'endroit où j'ai emmené Coalition. Et sinon, je viens de lire le dernier Édouard Louis, qui est quand même intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui rendent la sociologie aussi pragmatique. Et je ne sais pas si tu connais ou si tu as lu Édouard Louis, mais Édouard Louis, c'est un jeune aussi, il doit avoir une trentaine d'années, qui a grandi dans un petit village très pauvre du nord de la France et qui est, lui, homosexuel. Donc je pense que ça lui a aussi créé une conscience de se sentir différent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il raconte dans ses livres de sa famille. Et il a écrit un premier... D'ailleurs, il s'appelle Édouard Louis, mais son vrai nom, c'est Eddie Bellegueule. Il a écrit un premier livre... ou peut-être, je ne sais pas si c'est son premier, mais en tout cas qui raconte cette histoire qui est En finir avec Eddie Bellegueule, où il raconte justement cette enfance. Et c'est vraiment un portrait sociologique pragmatique. Et après, le deuxième tome, c'est sur son père. Et là, je viens de lire le troisième tome qui est sur sa mère. Et il raconte chaque portrait de cette famille. C'est passionnant. Et je trouve qu'il a très bien compris qu'on est rentré dans une ère du pragmatisme. C'est intéressant ce qu'il raconte parce qu'il l'a vécu. Et d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. C'est cette ère du pragmatisme. C'est de dire, par exemple, j'ai vécu telle situation dans ma vie personnelle et je pense qu'il faut en faire un sujet. Et je pense que ça, c'est beaucoup permis aussi par les réseaux sociaux, par le fait qu'on peut tous prendre la parole, qu'on peut tous entreprendre, ce qui n'était pas du tout possible il y a 20 ans, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, il est beaucoup permis par la digitalisation de la société aussi. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça, donc je recommande.
Une série ou un film ?
Oh là là, c'est difficile. Ah si, j'ai vu une super série qui s'appelle I May Destroy You, qui est écrite, réalisée par une brillante femme anglaise et qui raconte, je sais pas si je dois spoiler ou si je dois laisser
peut-être juste le début alors.
Ouais, juste le début.
Le premier épisode,
elle est dans un bar à Londres, elle vit sa vie de jeune londonienne et en fait elle se fait droguer et violer. Ça démarre un peu par... par situation très dramatique. Et en fait, petit à petit, on voit ce cheminement. Et je trouve que c'est intéressant de montrer aussi toute la complexité. C'est une série qui est très drôle, hein, qui est assez légère, qui est très drôle, qui n'est pas du tout dans le drame de cet événement. Mais ça montre aussi toutes les subtilités, toutes les complexités qu'il y a autour de ce sujet. Parce que pendant longtemps, on a cru que le viol, c'était en fait un malade mental dans une petite ruelle sombre. Et en fait, c'est 1% des cas, même pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je trouve que ça montre bien ça. Et le ton, il est très... Justement, il est très woke. Alors, il n'est pas cancel culture, mais il est très woke et je trouve que c'est intéressant.
Un podcast ?
Ouais, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute quand même souvent Les Chemins de la philosophie de Adèle Van Rett sur France Culture, qui est excellent et qui permet... Alors moi, j'ai une règle, c'est que si j'ai moins de 30 minutes de trajet entre mes trajets, je les fais à pied. Et en fait, ça me permet de ne pas être sur mon téléphone... pas sur mon téléphone, j'écoute un podcast, donc c'est via mon téléphone, mais ça me permet, en fait, dans ma journée de travail...
De faire des pauses.
De faire des pauses, ouais, parce que ça va vite, en fait, d'être tout le temps sollicité, d'être tout le temps débordé, d'être tout le temps sous l'eau. Et donc, c'est
ça, c'est un vrai plaisir, je fais la même chose en vélo. Entre mes rendez-vous, je suis toujours en vélo, et ça me permet d'avoir des moments à moi, d'un rendez-vous à l'autre.
Et ouais, exactement. Et donc, j'écoute beaucoup Les Chemins de la philo, parce que ça, de la philosophie, parce que ça reste, je crois, le meilleur. D'ailleurs, je crois que c'est le plus podcasté de tous les podcasts Radio France. Et sinon, il y a un podcast que j'aime beaucoup, qui est le podcast de Grégory Pouy, qui s'appelle Vlan. Et ce que j'aime dans ce podcast, c'est que c'est pas un podcast sur l'écologie, c'est pas un podcast sur le bien-être. En fait, c'est un peu au milieu de tout ça. Mais en fait, ça montre beaucoup comment on crée cette société de demain qu'on aspire de nos voeux, où on a reconnecté avec le bien-être, quoi. Enfin, c'est des thématiques très variées, mais il y a vraiment toujours cette idée de comment on se reconnecte un peu à autre chose.
Qui tu verrais invité à ce podcast ?
Ah, bah plein de monde. Alors, il y a quand même un drame qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que les personnes malentendantes sont des victimes collatérales du Covid. C'est-à-dire qu'elles n'entendent pas quelqu'un derrière son masque. Donc déjà, les masques, c'est impossible. Et les visios, c'est impossible aussi. Donc c'est des personnes qui ne peuvent pas travailler depuis un an. La deuxième chose, c'est que l'OMS a dit qu'une personne sur quatre allait être malentendante d'ici 2050. En fait, entre les concerts, les open space bruyants, les écouteurs, moi je suis la première à mettre mes écouteurs au maximum, je sais que c'est très grave. Et donc je pense qu'il y a un vrai sujet dont on n'a pas encore conscience autour de l'audition. Et bonne nouvelle, j'ai trouvé une solution, c'est deux entrepreneurs géniales, Kate et Margot, qui ont fondé Perd, qui est un studio en fait, de création autour du problème de l'audition. Et en fait, Kate et Margot, donc c'est un binôme entendant-malentendant, et elles commencent à créer des programmes. Par exemple, comment dans un événement, on protège les oreilles, comment dans son open space, on a un filtre anti-bruit, comment dans un festival, pareil, on se protège, et pareil, comment les malentendants, comment on peut rendre le sujet de la non-audition un peu cool, un peu sexy, enfin, comment on en fait un enjeu.
Je pensais pas qu'un open space bruyant pouvait...
Alors, moi non plus, mais en fait, vu que je me suis penchée sur le sujet, dans les rapports notamment de la Fondation pour l'audition, c'est un des problèmes.
Écoute, merci Flora d'être venue nous parler de toi et de Coalition.
Et ben merci beaucoup pour l'invitation.
À bientôt Flora.
Salut, merci beaucoup.
Retrouvez les autres épisodes de la série La Relève sur toutes les plateformes de podcast et sur castali.com.